J'ai choisi un texte qui sera la base de notre étude aujourd'hui. C'est un texte qui se retrouve dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 et suivants. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez chercher dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 et suivants. Les apôtres ont essayé de plusieurs manières d'expliquer leur vision de l'Église aux chrétiens. Et pour le faire, souvent, ils ont puisé dans l'Ancien Testament, ils ont piqué des images, ils ont pris des textes pour que les chrétiens aient une autre manière de vivre, de voir leur vie en Christ. Et donc, nous allons voir qu'aujourd'hui, l'image qui est utilisée dans l'Ancien Testament vient de l'Ancien Testament, vient du culte que Israël offrait à Dieu. Et donc, je vous invite à lire dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 et suivant. Nous lisons. Approchez-vous de Jésus le Messie, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, pour parler de notre relation avec Dieu, Pierre appelle les chrétiens à se rapprocher du Messie, de Jésus, une pierre vivante sur laquelle ils peuvent construire leur vie. Et après, il dit aux chrétiens que non seulement Jésus est une pierre vivante, mais nous aussi, nous sommes des pierres vivantes qui vont être mises ensemble pour former une maison spirituelle, c'est-à-dire un temple. Jésus est la pierre vivante sur laquelle nous construisons notre vie, parce que lui a été rejeté. Ses souffrances ont fait que les chrétiens de l'époque, eux aussi, ont vécu le rejet, la solitude, la souffrance et la mort. Mais Jésus, en passant par la même chose, promet qu'il y a un avenir glorieux, car nous allons vivre ce que nous avons seulement goûté maintenant. C'est-à-dire, nous allons goûter la présence de Dieu dans la vie à venir, mais encore plus que nous goûtons sa présence maintenant. Il fait ce qu'il peut pour habiter pleinement en nous maintenant, mais le jour viendra où nous le verrons face à face. Nous serons transformés et nous vivrons éternellement avec lui. Et notre texte ici est rempli d'imageries de l'Ancien Testament. L'apôtre parle des pierres qui, ensemble, forment un temple spirituel. Ce temple, ou cette maison spirituelle, c'est le temple de Dieu qui, après, allait se trouver à Jérusalem. Et donc, il dit que chacun de nous, comme des pierres vivantes, nous formons ce temple construit sur la pierre rejetée qui est Jésus. Après, il parle de saint sacerdoce, des prêtres, les hommes de la famille d'Aaron, consacrés et mis à part pour agir en faveur d'Israël, comme intermédiaires entre l'Éternel et Dieu. Et donc, il dit, vous êtes un saint sacerdoce. Ça, c'est un turban, juste si jamais vous posez la question. Un turban qu'on met sur la tête. Hein. Donc, il dit aux chrétiens, vous êtes un saint sacerdoce. Et puis, finalement, il parle du fait qu'il y a des sacrifices, des victimes spirituelles. Nous font penser aux boucs, nous font penser aux taureaux et aux agneaux qui ont servi de sacrifices offerts à Dieu pour le pardon, pour la communion et pour la reconnaissance. Et donc, la dernière image que nous avons, c'est celui de sacrifice. Donc, l'autel, ici, construit avec le bois et le feu. Donc, nous offrons des sacrifices continuels à notre Dieu. L'image est clairement l'image du culte d'Israël dans l'Ancien Testament. Temple, prêtre et sacrifice. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il continue quelques versets plus loin, au verset 9. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et donc Pierre reprend un langage qui est réservé pour Israël. C'est une citation d'Exode chapitre 19 que nous avons ici. Quand il parle de vous, c'est-à-dire les chrétiens, comme une race élue, comme un sacerdoce royal, comme une nation sainte, il faut savoir que de nouveau, il va dans l'Ancien Testament pour trouver cette image. Et comme j'ai dit, cette image se trouve dans Exode chapitre 19, les versets 5 et 6. Écoutons ce que Moïse dit, le message que Dieu a proclamé. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Ici, il dit que j'ai choisi Israël de toutes les nations de la terre. Et si Israël garde l'alliance avec Dieu, il dit clairement que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Israël venait d'éviter ou de vivre 400 ans d'esclavage en Égypte, venait de traverser la mer, venait de commencer une période de 40 ans dans le désert, et Dieu lui fait une offre exceptionnelle. Il dit, vous m'appartiendrez en propre. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et vous serez pour moi une nation sainte. C'est ça l'offre que Dieu fait à Israël. Quelle offre, n'est-ce pas? Un royaume de sacrificateurs ou, comme nous voyons ailleurs, un sacerdoce royal. Et quand nous pensons aujourd'hui à un prêtre, nous pensons d'habitude à un homme habillé en robe de l'Église catholique ou orthodoxe anglicaine, qui vient pour célébrer la messe, pour initier les bébés dans la foi, pour entendre les confessions, pour célébrer les mariages, pour enterrer les fidèles. Mais dans les textes bibliques, quand on parle de prêtre, c'est celui qui tient les clés pour entrer en contact avec Dieu. Le prêtre sert de vrai pont entre l'homme pécheur et le Dieu trois fois saint. C'est lui qui peut rester dans la présence de Dieu et apporter à Dieu les sacrifices que Dieu va accepter. Et c'est le seul qui pouvait apporter les sacrifices que Dieu pouvait accepter. Savez-vous que l'enfant de Dieu, dans le passage de 1 Pierre chapitre 2, l'enfant de Dieu, le chrétien, est appelé un prêtre de Dieu. Non dans le sens que nous portons des robes ou que nous accomplissons des rites, mais plutôt parce que nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, que nous avons un accès à l'Éternel à travers le grand prêtre qui est Jésus-Christ. Et peut-être parce que nous aussi, nous pouvons servir de pont d'intermédiaire entre les hommes et Dieu, pour les nations qui ne connaissent pas encore Dieu. Aussi, nous apportons à Dieu des sacrifices spirituels, nos corps, nos louanges et nos offrandes. Se voir comme prêtre, pas réservé seulement pour des élites ou des hommes âgés, célibataires pour la vie, des gens qui appartiennent à l'Église catholique ou orthodoxe, mais se voir chacun comme un prêtre devant Dieu, c'est le message que Pierre veut donner à tous les chrétiens. D'être prêtre de Dieu, on peut dire qu'une seule chose, wow! Être prêtre veut dire que je peux entrer dans sa présence. Peut-être c'est dur pour vous d'imaginer que Dieu vous voit comme l'un de ses prêtres. Mais c'est comme cela qu'il vous voit. J'aimerais juste parler avec vous de quelques symboles que nous pouvons imaginer en regardant dans l'Ancien Testament quand on parle des prêtres. J'ai commencé à lire quelques passages, spécialement en Exode chapitre 29, et nous lisons des passages concernant la consécration des sacrificateurs ou des prêtres. Il faut savoir que Dieu n'a pas toujours travaillé à travers les prêtres. Nous nous souvenons, par exemple, que Caïn et Abel, Dieu a demandé à Caïn et Abel d'offrir des sacrifices à Dieu. Ils n'étaient pas des prêtres. Nous nous souvenons qu'Abraham a offert des sacrifices à Dieu et il n'était pas un prêtre dans le sens que nous voyons plus tard avec les enfants d'Aaron. Nous savons que c'est la même chose avec Isaac et Jacob qui construisaient des autels pour offrir des holocaustes à Dieu dans chacun de ces endroits. Mais à un moment donné, Dieu dit, je vais consacrer une famille qui va m'appartenir au-dessus de toutes les autres familles d'Israël, et ça sera Aaron et les enfants d'Aaron qui vont devenir du prêtre. Et avant ce moment-là, il n'y en avait pas. Moïse a offert des sacrifices et autres, mais maintenant, ça sera Aaron et sa famille. Et c'est dans Exode chapitre 29, les versets 4 et suivants, que nous lisons toutes ces choses. Et donc, il faut initier cette famille, Aaron et ses fils, à être des prêtres de Dieu. Et j'aimerais juste vous lire le petit passage, c'est dans Exode 29, le verset 4 et suivant. Voici ce que nous lisons. Tu présenteras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral que tu serreras sur lui avec la ceinture de l'éphod. Tu poseras le turban sur sa tête, et tu mettras le diadème sacré sur le turban. Tu prendras l'huile de l'onction. Tu en verseras sur sa tête et tu l'oindras. Tu présenteras ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une écharpe et tu leur attacheras des tiares. Le sacerdoce leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Tu investiras donc Aaron et ses fils. Donc, nous voyons ici qu'il y a tout un processus qu'il fallait suivre pour devenir prêtre à l'époque. C'était l'initiation. Et j'aimerais juste imaginer que Pierre avait cela en tête quand il parle aux chrétiens que vous êtes un sacerdoce saint, que vous êtes des prêtres. Et là, on voit quand même pas mal de choses. La première chose qu'il a dit à Aaron et fils, à ses fils, c'est qu'ils devaient être lavés de l'eau. Ils devaient être lavés de l'eau. Alors, on va juste prendre ça ici. J'ai de l'eau ici. On va pas se laver tout de suite avec. Hein. Mais l'image est forte. L'image est l'image de l'eau qui purifie le prêtre, qui le prépare d'une manière rituelle pour entrer dans la présence de Dieu. Nous savons que plus tard, que Moïse va faire construire un bassin. Ça va s'appeler la mer de bronze. Et plus tard, c'est David qui le fera au temple. Et Salomon qui le fera pour le temple. Et ce sera énorme, assez grand pour se baigner dedans. Nous savons qu'à l'époque de Jésus, autour du temple, existaient des piscines, des petites piscines dans lesquelles on descendait d'un côté et remontait de l'autre pour pouvoir se plonger dans les eaux, pour être prêt pour entrer dans les cours du temple. Et nous savons que dans les Écritures, on parle du chrétien qui est lavé de l'eau. Une des fois, on parle d'être lavé par la parole de Dieu. Cet évangile qui entre dans notre vie et qui nous purifie quand nous l'écoutons et quand nous obéissons à cela. Mais nous ne pouvons pas ne pas penser au baptême. Cette eau qui est donnée pour initier le chrétien avec sa foi en Christ Jésus, baptisé dans sa mort, plongé dans sa mort, ressuscité à une vie nouvelle. Nous participons pleinement par une action spirituelle à tout ce que Dieu a fait pour nous en Christ Jésus. Vous savez qu'aujourd'hui, quand les gens pensent à baptême, parfois ils vont penser à un peu d'eau qui est mise sur la tête d'un enfant ou même d'un adulte. Mais au temps du Nouveau Testament, le baptême, c'était d'être immergé dans l'eau. Le mot baptême veut dire couler ou plonger sous les eaux. Et donc, cette image était très forte pour le chrétien quand il venait et il se plongeait dans ces eaux pour participer à la mort de Christ, d'être enseveli comme lui et ressusciter une nouvelle vie. Et donc, nous avons cette idée ici, cette idée d'eau qui lave. La deuxième chose que nous remarquons, c'est qu'il dit qu'il fallait revêtir le prêtre d'une certaine façon, d'une certaine manière. Il y avait d'abord des sous-vêtements, ce n'est pas décrit dans notre texte, mais c'était pour que la nudité ne se voie jamais dans la présence de Dieu. On devait être totalement couvert. Deuxième chose, c'était une tunique ou une chemise qui était longue, qui couvrait le corps. Après, il y avait la robe qui était là, avec aussi ce qu'on appelle le pectoral, c'est-à-dire ce qui, l'éphod qui couvrait avec les 12 pierres précieuses. Vous vous souvenez de cela? Chaque pierre qui représentait une tribu d'Israël. Avec sur la tête un turban. Et dans ce turban, il y avait la tiare où il y avait une couronne en or qui était portée. Et donc, nous voyons que c'était essentiel de se vêtir d'une certaine façon pour entrer dans la présence de Dieu. Bon, j'ai pas d'éphod et j'ai pas de robe, mais bon, je vais quand même me vêtir aujourd'hui, juste qu'on voit que pour les chrétiens, l'image qui est utilisée, c'est de se dévêtir de quelque chose et de se revêtir d'autre chose. Nous lisons dans les Écritures, par exemple, Romains chapitre 13. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Si vous mettez le Seigneur Jésus-Christ comme votre vêtement, vous pouvez entrer dans la présence du Père. Nous lisons, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, dans Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous d'humilité, en Pierre, chapitre 5, le verset 5. Et puis finalement, Colossiens, chapitre 3, les versets 12 à 14. Écoutez bien. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Remettez-vous par-dessus tout l'amour qui est le lien de la perfection. Et donc, nous sommes lavés par le sang de Christ, nous passons par l'eau de la parole et l'eau du baptême. Nous revêtons le Christ et nous remettons aussi toutes ces qualités de Dieu, mais surtout nous allons nous revêtir de l'amour de Dieu. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué dans notre texte, après avoir habillé comme il fallait les prêtres, donc maintenant, bon, les bientôt prêtres, hein, première chose qu'on fait, on va les laver. Deuxième chose, on va les revêtir. Mais la troisième chose qu'il dit, on va les oindre d'huile. D'accord. Et donc, on allait prendre l'huile d'olive et sur leur tête, ou sur le vêtement, je ne vais pas le faire sur moi, mais sur le tête, ils allaient oindre l'huile parfumée, l'huile d'olive parfumée sur la tête de ces personnes. Et vous savez, quand ils reçoivent l'onction, vous savez quel est le mot qu'on utilise pour cela? C'est le mot Messie. Messie veut dire oint, celui qui reçoit l'onction de Dieu. Et ici, c'est une consécration à Dieu, pour appartenir à lui. Vous savez que comme un chrétien qui est prêtre de Dieu, est-ce que vous savez que nous avons reçu l'onction? Vous le savez, n'est-ce pas? Jean, dans son épître, dans Jean chapitre 2, le verset 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Cette onction est l'onction de l'Esprit de Dieu, versée sur tous ceux qui portent le nom de Christ, versée sur tous les enfants de Dieu. Et donc, à un moment donné, très solennel, on peut imaginer le prêtre lavé, le prêtre revêtu, maintenant il reçoit l'huile sur sa tête. Et maintenant, on sait que nous avons nous avons le prêtre. Et de la même façon, le chrétien, disons le croyant, il arrive purifié par la parole, passant par les eaux de baptême, il revêt le Christ et il reçoit l'onction, l'Esprit de Dieu pour vivre en lui. Bon, il y a une dernière chose que je veux voir, c'est pas une, il faut pas, comme on dit, être éternel pour être immortel, d'accord? Donc on va pas continuer longtemps dans cet enseignement, mais une dernière chose que nous voyons, c'est que ils vont prendre une couronne. Le texte, l'Exode dit diadème, mais c'est vraiment l'idée de tiare. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah, ouais, j'ai trouvé une couronne. Okay. Bon, je t'admets que c'est pas très bien fait, mais comme ça, vous avez l'idée. Et dans le turban même, on mettait ce tiare qui était en or, qui consacrait donc le prêtre qui était prêt pour entrer dans la présence de Dieu. Même il y avait une inscription dessus qui le permettait d'entrer dans la présence de Dieu. Bon, nous, est-ce que nous avons une couronne? Nous n'avons pas de diadème. Notre diadème, ou notre couronne, c'est plutôt une couronne de vie, une couronne de justice. Nous avons une couronne qui est la couronne de la victoire. Couronne pour tous ceux qui restent fidèles jusqu'à la mort. Tous ceux qui suivent le Christ fidèlement à travers chaque épreuve. Nous avons donc cette couronne de vie qui est donnée à chacun qui finit la course. Ce sont les lauriers du vainqueur, de celui qui reste fidèle au roi qui règne à la droite de Dieu. Vous savez que vous êtes un saint sacerdoce. Vous êtes lavé de l'eau de la parole. Vous êtes immergé dans les eaux de baptême. Vous êtes revêtu du Seigneur Jésus-Christ, revêtu de sa compassion, de sa bonté, de son humilité, de sa douceur, de sa patience, de son amour. Vous êtes roi de l'Esprit de Dieu que Jésus verse sur chacun des enfants de Dieu. Et vous êtes aussi couronné de gloire. En plus, vous savez bien que nous avons un sacrificateur, un souverain sacrificateur qui est le Christ. Et chaque fois que nous ne remplissons pas notre rôle, lui, il remplit le sien. Chaque fois que nous n'amenons pas les gens à Dieu, nous pouvons montrer le Christ qui le fait. Nous avons un sacrificateur qui, baptisé de Jean, a reçu le baptême de la mort et il a bu la coupe de la souffrance. Jésus était revêtu de l'humanité pour souffrir comme chacun de nous et pour être tenté comme nous nous sommes tentés, sauf qu'il est resté fidèle. Lui qui est roi de l'Esprit de Dieu, un esprit d'adoption, un esprit qu'il offre à nous tous. Et puis le Christ qui est couronné de gloire et qui règne comme roi de l'univers. Le chemin de Jésus est notre chemin. Jésus, le souverain sacrificateur, nous appelle à être des prêtres fidèles. Et en agissant aussi, ainsi, en comprenant cela et en agissant comme ceci, nous pouvons donc, à ce moment-là, être un temple pour Dieu. Nous pouvons être des gens qui servent de pont envers Dieu pour les autres. Et nous pouvons donc offrir des sacrifices spirituels à Dieu, nos corps, nos louanges et nos offrandes.